ce passage sous les yeux dans Deutéronome 5. On va voir ça ensemble, et donc ce serait super d'avoir la Bible sous les yeux. On continue notre série de prédications dans le livre de Deutéronome. C'est notre habitude dans cette église de prêcher successivement au travers de livres de la Bible. On ne va pas voir tout le livre de Deutéronome, mais on a choisi certains passages clés pour voir ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce livre. Et donc Deutéronome 5, les versets 22 à 33, pardon, c'est ce qu'on va voir pendant le temps qu'on a ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de prier ensemble. Oui, notre Dieu, nous avons besoin de toi, et nous te prions que tu puisses être à l'œuvre dans les moments qu'on va passer ensemble. Nous avons besoin que tu œuvres dans nos cœurs pour nous révéler ta gloire et ta grandeur. Et on te prie qu'au travers de ce qu'on va voir dans ce texte de ta parole, on soit davantage conscient de ce grand Dieu glorieux que tu es, mais qu'on puisse aussi être davantage conscient du privilège qui est le nôtre de pouvoir nous approcher librement de toi par la foi en Jésus. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen. C'est pas une surprise de dire que croire en Dieu, c'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. Je pense que ça surprend pas de dire ça. Dire que Dieu existe, affirmer qu'on croit que Dieu existe, va pas nous faire passer pour quelqu'un de sage ou d'intelligent aujourd'hui. Au contraire, si on dit ça à nos collègues ou à nos amis aux études, ça va pas nous faire passer pour quelqu'un qui est particulièrement intelligent. On parle quand même de Dieu dans la société, dans les conversations de tous les jours. En fait, si on y pense, on parle beaucoup de Dieu. Mais souvent, quand on en parle, c'est pour se moquer de Dieu. C'est pour prendre Dieu un peu à la rigolade, c'est pour prendre Dieu un peu à la légère. Peut-être que vous connaissez le célèbre athée Richard Dawkins. Il a écrit un livre dont le nom a été, le titre du livre traduit en français donne « Pour en finir avec Dieu ». Ou peut-être vous connaissez aussi Serge Gainsbourg, qui est un chanteur français. Il aurait dit ceci, « L'homme a créé des dieux, mais l'inverse reste à prouver ». Donc on parle quand même de Dieu dans la société, dans la vie de tous les jours, on parle de Dieu. Mais souvent quand on en parle, c'est pour se moquer, c'est pour prendre Dieu un peu à la légère. Mais le texte qu'on va regarder ensemble ce matin, il nous appelle à avoir une attitude bien différente vis-à-vis de Dieu. On continue notre série de prédications dans le livre de Deutéronome, comme je l'ai dit, et ce livre, entre autres, nous présente Dieu tel qu'il est. Et on voit que c'est un Dieu qui n'est pas un petit Dieu, qui est un fruit de l'imagination humaine, mais ça nous présente Dieu comme étant le seul Dieu vivant et vrai. Et on va voir aujourd'hui que Dieu est un Dieu qu'on doit craindre, dont on peut s'approcher avec confiance, oui, mais qu'on doit craindre et à qui on doit obéir. Et on va voir ça ensemble. Vous avez le plan de là où on va aller au dos du feuillet, donc vous pouvez suivre ça. Il y a deux choses principalement qu'on va voir, deux points de ce matin. Le premier, le besoin d'un médiateur, et ensuite le besoin d'obéir. Et donc premièrement, le besoin d'un médiateur. En fait, ces versets, ils nous parlent de ce qui s'est passé sur le mont Sinaï ou à Horeb, lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. On a vu ça dimanche dernier, les 10 commandements. Et quand Dieu a donné ces 10 commandements sur le mont Sinaï, il a révélé sa gloire et sa grandeur. On voit ça au verset 24. Notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et ça donnait un spectacle qui était assez impressionnant. La montagne était en feu. Imaginez, une montagne, mais qui est tout en feu. Et non seulement ça, mais il y avait aussi des ténèbres, de l'obscurité. Il y avait une nuée qui recouvrait la montagne. Et puis il y a une grande voix qui se fait entendre. Ça devait être impressionnant, ça devait être vraiment impressionnant. Et face à ça, comme on le voit dans ces versets, le peuple réagit. Et le peuple y réagit de deux manières qui sont de bonnes réactions. On sait que ce sont des bonnes réactions parce que Dieu approuve ça au verset 28. Il dit « J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien ». Alors, quelles sont ces réactions du peuple? D'abord, le peuple réalise que c'est un privilège d'entendre la voix de Dieu. C'est un privilège d'entendre la voix de Dieu. C'est un privilège énorme pour eux d'avoir pu entendre la voix de Dieu parce qu'il s'agit de Dieu. Il s'agit du Créateur qui est souverain de ce monde, qui est bien au-dessus de nous. Ce Dieu-là a parlé à des êtres humains. Quel privilège! Et c'est ce qu'ils disent au verset 24. Vous avez dit « Voici que l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. » Mais non seulement ce Dieu-là a parlé à des êtres humains, mais aussi ces êtres humains sont restés en vie. C'est ce qu'ils disent dans la suite des versets. « Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont restés en vie. » Au verset 24. Le peuple est conscient que ce n'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un privilège pour des êtres humains d'entendre le Dieu vivant et vrai parler. Et c'est pour ça que leur deuxième réaction, c'est de réaliser que ce serait dangereux pour eux de continuer à entendre directement la voix de Dieu. Ce serait dangereux pour eux de continuer à entendre directement la voix de Dieu. C'est ce qu'ils disent au verset 25 et 26. Ils disent ceci: « Maintenant, pourquoi mourions-nous? En effet, ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait déjà entendu comme nous le Dieu vivant parler du milieu du feu et qui soit resté en vie ?» Et peut-être que la réaction du peuple nous surprend. On se dit, mais c'est bizarre quand même de dire ça. Mais si cette réaction nous surprend, c'est qu'on n'est pas assez conscient de qui Dieu est. On n'est pas assez conscient de qui Dieu est. Pensez au cadre dans lequel ce peuple se trouvait, avec la montagne en feu, avec les ténèbres, avec le tremblement de terre, avec les éclairs. C'était impressionnant. Et tout ça, c'était simplement des choses qui entouraient la manifestation de la présence de Dieu. Mais rien que ça, c'était déjà impressionnant. Alors imaginez de rentrer dans la présence de Dieu lui-même. C'est un peu comme si tout à l'heure, vous allez vous balader en ville, vous baladez dans la rue à Bruxelles ou là où vous habitez, puis tout d'un coup, vous passez à côté d'une maison et vous entendez un grand bruit dans cette maison, comme un bruit de tonnerre, un bruit terrifiant. Puis non seulement ça, mais tout d'un coup, la maison, elle se met à trembler. Et puis vous voyez de la fumée qui sort des fenêtres. Alors on est d'accord, ça va pas arriver, mais imaginons. Hein, mais qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire, mais ça fait peur, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est terrifiant. C'est un peu comme ça ici. Rien que le cadre qui entourait la manifestation de la présence de Dieu donnait ce spectacle terrifiant. Alors imaginez de rentrer dans la présence de Dieu lui-même. En fait, l'Ancien Testament est très clair pour montrer que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Plusieurs fois dans la Bible, on lit des récits de personnes qui ont été confrontées à une manifestation de la présence de Dieu et qui sont tombées à terre, sans force, parce qu'ils étaient conscients de leur petitesse face à la grandeur et la majesté de Dieu. Alors imaginez d'entendre ce Dieu-là directement, la grande voix de ce Dieu-là qui retentit. C'est un peu comme si vous décidez cet après-midi, après votre balade en ville, et vous avez vu ce truc qui était vraiment terrifiant, vous décidez de faire une petite sieste à côté d'une enceinte, à côté d'un haut-parleur. Alors là encore, on est d'accord, c'est pas très intelligent à faire, mais imaginez que c'est ce que vous faites. Vous vous endormez à côté de ce haut-parleur, cette enceinte, puis il y a le calme qui se fait ressentir, il y a un grand silence, vous dormez tranquillement, et puis tout d'un coup, une grande voix qui se fait retentir, le son qui se met en marche. Ben, vous allez avoir peur, vous allez sursauter. C'est un peu comme ça ici aussi. La grande voix de Dieu qui retentit. C'est terrifiant. Et donc face à cette révélation de Dieu, oui, d'un côté, le peuple est émerveillé et conscient du privilège que c'est pour eux d'entendre le Dieu vivant leur parler. Mais en même temps, ils sont terrifiés, ils ont peur, et ils ne veulent pas que ça continue pour ne pas mourir. En fait, ils sont conscients qu'ils ont besoin d'un médiateur. Ils ont besoin de quelqu'un qui va se positionner entre eux et Dieu. Parce que ce peuple est conscient qu'il y a un fossé énorme qui sépare les êtres humains du Dieu de l'univers. Parce que lui, il est Dieu, et nous, on est des êtres humains. Lui, il est le Créateur, et nous, on est des créatures. Lui, il est infini, il n'a pas de limite, et nous, on est limités. Lui, il est saint, il est parfait, il est entièrement pur, et nous, on est loin de l'être. Il y a un fossé énorme qui sépare les êtres humains du Dieu de l'univers. Et c'est pour ça que le peuple dit à Moïse au verset 27, « Vas-y toi, approche-toi de Dieu, écoute ce que Dieu te dit, et puis tu nous le transmettras, tu nous diras ce qu'il t'a dit, et nous on va obéir. » Ils demandent à Moïse d'être leur médiateur pour leur permettre d'entendre ce que Dieu dit, mais pas directement, au travers de quelqu'un, au travers de Moïse. Et cette bonne réaction du peuple nous permet déjà d'apprendre quelque chose vis-à-vis de Dieu. C'est que Dieu est un Dieu à craindre. Dieu est un Dieu à craindre. Ne prenons pas Dieu à la légère. Ce n'est pas un faux Dieu, ce n'est pas une idole. Dieu n'est pas un fruit de l'imagination humaine. Il est le seul Dieu vivant et vrai, devant qui on doit avoir un profond respect. Il est le créateur et le souverain de ce monde, celui devant qui aucun de nous ne peut tenir par lui-même. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de parler avec des gens qui étaient athées, qui rejetaient l'existence de Dieu. Il me disait quelque chose comme ça, mais si Dieu existe, alors qu'il vienne se révéler à moi, ici, tout de suite, maintenant, qu'il se révèle à moi. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Parce que si Dieu se révélait à nous tel qu'il est, dans toute sa sainteté, On ne pourrait pas tenir. On ne pourrait pas tenir. Dieu est saint. Il est entièrement parfait et pur. Et nous sommes pécheurs. Et ces deux réalités ne sont pas simplement loin l'une de l'autre, mais elles sont totalement opposées. On ne peut pas les mettre ensemble. C'est un peu comme si on essayait de réconcilier, de mettre ensemble deux substances chimiques opposées. Boum, ça explose. On ne peut pas les mettre ensemble. Alors ne prenons pas Dieu à la légère. Et je pense qu'on a besoin d'être rappelé de ça, même en tant que chrétien évangélique. Oui, on sait que Jésus est notre médiateur, qui nous donne accès à la présence de Dieu, comme on le verra. Mais ne prenons pas ça pour acquis trop facilement. On court le danger d'être trop léger, d'oublier que sans Jésus, on ne tient pas face à ce Dieu-là. D'oublier le privilège qui est le nôtre de pouvoir nous approcher de Dieu grâce à Jésus sans crainte d'être consumé. Il y a donc une juste place dans la vie chrétienne pour la crainte de Dieu, pour un profond respect face à qui Dieu est. Ne prenons pas Dieu à la légère. Dieu est un Dieu à craindre. Mais ce qui est merveilleux et ce qu'on voit dans ce passage et dans ce que la Bible nous révèle, c'est que même si ce Dieu est un Dieu à craindre, dont le peuple ne peut pas entendre la voix de manière directe sans risquer de mourir, c'est aussi un Dieu dont on peut s'approcher. On voit ça pour le peuple avec Moïse qui va agir comme médiateur. Moïse va recevoir les paroles de Dieu et les transmettre au peuple. Et dans ce sens, il va agir comme un prophète qui est chargé de communiquer, de transmettre au peuple ce que Dieu lui révèle. Mais on voit aussi que Moïse est un médiateur imparfait. Lui-même, Moïse, il ne va pas rentrer dans le pays promis. Et on voit à la fin du livre de Deutéronome, qu'il termine, le dernier chapitre du livre de Deutéronome, que Moïse va mourir. Et donc il ne pourra plus agir en tant que médiateur. Alors c'est vrai que Dieu va susciter d'autres prophètes, d'autres médiateurs qui vont agir pour représenter le peuple auprès de Dieu, pour transmettre ce que Dieu révèle au peuple. On voit ça plus loin dans le livre de Deutéronome. Et je vous lis quelques versets dans Deutéronome 18. Vous pouvez simplement écouter, mais c'est Deutéronome 18, les versets 15 à 18, où on voit cela, que Dieu va susciter d'autres prophètes. Donc c'est Moïse qui parle au peuple et qui dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais « Que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. » Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Donc Dieu dit, oui, en effet, le peuple ne peut pas entendre ma voix directement. Donc je vais envoyer d'autres prophètes comme toi, Moïse, qui vont faire ce que toi tu as fait, qui vont transmettre au peuple ce que moi je dis. Et donc on voit tout au long de l'histoire du peuple d'Israël que Dieu envoie des prophètes pour parler au peuple de sa part. Mais il y a des problèmes avec ces prophètes, avec ces médiateurs. Parce que d'abord, comme on le verra dans la suite du texte, le peuple n'obéit pas toujours à ce que Dieu dit à travers les prophètes. Le peuple désobéit, et les médiateurs sont impuissants pour changer ça, pour rendre le peuple obéissant. Mais aussi, ces prophètes sont des médiateurs qui sont imparfaits, tout comme Moïse. Moïse meurt, et puis il faut un autre prophète. Cet autre prophète meurt, et puis il faut encore un autre prophète. Et puis cet autre prophète meurt, et il en faut encore un autre, et ainsi de suite, sans arrêt. Et le problème de ces prophètes, c'est que non seulement ils sont humains et donc ils terminent par mourir, mais ils sont aussi pécheurs, tout comme le peuple. Et donc ils ne peuvent pas être des médiateurs parfaits. Et donc on voit que ce livre du Deutéronome nous montre, entre autres, le fossé qui existe entre les êtres humains et Dieu. Le besoin profond d'un médiateur. Mais ce livre nous montre aussi que tous les médiateurs humains, même Moïse lui-même, sont imparfaits. Et en voyant tout ça, on semble être laissé sans solution, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Dans Acte 3, dans le discours de Pierre, Pierre dit que Jésus est ce prophète, ce médiateur parfait que Moïse avait annoncé en Deutéronome 18 et dont le peuple a besoin. Et Pierre dit aussi dans ce discours que tous les prophètes pointent vers Jésus, ce médiateur parfait. Parce que oui, Jésus est un vrai être humain comme nous, à part qu'il n'a jamais péché, mais il est aussi Dieu lui-même, Dieu le Fils. Et donc Jésus peut être un médiateur parfait entre Dieu et les hommes, comme un pont qui relie deux entités qui sont totalement séparées. Il est celui qui peut nous faire entrer dans la présence de Dieu, en réglant le problème de notre péché, ce problème qui nous sépare de Dieu. On a déjà dit combien si Dieu se manifestait dans toute sa sainteté, on ne pourrait pas tenir. Mais dans un sens, c'est ce qui s'est passé à la croix, où Jésus a pris sur lui la condamnation de notre péché. Toute cette manifestation puissante, terrible, sainte de Dieu, tombe sur Jésus. Voilà pourquoi ce qui s'est passé à la croix est si terrible. Il y avait des ténèbres en plein milieu de la journée. Le Fils de Dieu est en train d'agoniser. Il crie avec une voix forte, et quand il expire, le voile du temple se déchire en deux, il y a un tremblement de terre, il y a des rochers qui se brisent. Il y a quelque chose de particulier qui se passe ici. La colère de Dieu le Père s'abat sur Dieu le Fils. La juste réaction de Dieu face à ce qui est mal, précisément ce qui nous séparait de Dieu. Et c'est seulement en raison de ce qui s'est passé sur cette croix qu'on peut s'approcher de ce Dieu vivant, de ce Dieu qu'on doit craindre avec confiance. Quelquefois à l'église, on chante le cantique, et on va le chanter tout à l'heure, « Ô Christ éternel rocher ». Il a été composé par quelqu'un qui s'appelle Augustus Toplady, et il l'aurait composé en fait après avoir vécu une tempête. Une tempête où il a failli mourir et où il a échappé à la mort en se cachant dans le creux d'un rocher. Et c'est pour ça que la première phrase de ce cantique dit « Ô Christ, éternel rocher, je viens en toi me cacher ». Et ces paroles montrent bien que Christ est ce rocher en qui on peut se cacher pour avoir accès à la présence de Dieu. Jésus est un médiateur parfait. Et donc pour vous, si vous venez dans cette église pour la toute première fois, que vous découvrez ce que les chrétiens croient, le message de ce texte pour vous, c'est que vous avez besoin d'un médiateur, et que Jésus est ce médiateur dont vous avez besoin. Un médiateur parfait et suffisant. Alors confiez-vous en lui pour vous approcher de Dieu, ce Dieu glorieux, avec confiance et assurance. Mais ça nous amène aussi à réaliser que Jésus est le seul médiateur, et non pas un médiateur parmi les autres. Je crois que l'Église catholique romaine se trompe en présentant Marie ou les saints comme des aides en plus de Jésus pour nous donner accès à la présence de Dieu. Ils ne vont pas dire que ce sont des médiateurs à la place de Jésus, mais que ce sont des aides en plus de Jésus pour nous faire gagner la faveur divine. Ou alors que le prêtre est un intermédiaire entre nous et Dieu et qu'on a besoin du prêtre dans notre vie tous les jours pour accéder à Dieu. Mais non seulement c'est faux parce que Marie, les saints ou les prêtres sont des êtres humains comme nous, pécheurs, mais aussi parce que c'est une offense envers Jésus. Ce serait dire que Jésus n'est pas un médiateur suffisant. Ce serait dire que l'œuvre de Jésus sur la croix ne suffit pas pour nous donner accès à la présence de Dieu. Non, Jésus est un médiateur suffisant, et puisqu'il est un médiateur suffisant, il est le seul médiateur. Il n'y a besoin de personne d'autre pour que quiconque, aujourd'hui même, puisse avoir accès à la présence de Dieu. Et donc, ce n'est pas la religion qui peut nous faire entrer dans la présence de Dieu. Même pas la religion évangélique. Ce ne sont pas les œuvres religieuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui vont me rendre digne de m'approcher de Dieu. Fréquenter une église chaque dimanche, lire la Bible chaque jour, prier avant le repas, ce sont des bonnes choses à faire. Mais ce n'est pas le fait de faire ces choses-là qui va nous rendre acceptables aux yeux de Dieu, qui vont nous donner une relation privilégiée avec Dieu. Seul Jésus le peut. Il est un médiateur suffisant. Alors bénéficions de ce privilège de pouvoir nous approcher de Dieu avec confiance grâce à Jésus. Si un danger ce serait de ne pas craindre Dieu, de prendre Dieu trop à la légère, l'autre danger ce serait de penser qu'il est un Dieu dont on ne peut jamais s'approcher, dont on ne peut pas s'approcher. Ou de vivre dans une mauvaise crainte en pensant que Dieu n'est jamais content avec nous, qu'il est toujours en colère contre nous, qu'il regarde notre vie et qu'il est insatisfait par nos manquements, par nos erreurs, par nos chutes. Et essayer donc de s'améliorer, de faire de notre mieux pour rendre Dieu content avec notre vie, de penser qu'on n'est jamais à la hauteur pour s'approcher de Dieu, qu'on n'est jamais digne. C'est vrai qu'en nous-mêmes, on n'est jamais à la hauteur, on n'est jamais digne. Mais Jésus, lui, il est à la hauteur, il est digne, et il est notre médiateur. Il nous a pardonné de nos péchés, et il nous a recouverts de sa justice, de ses œuvres parfaites, de sorte qu'aux yeux de Dieu, nous sommes à la hauteur, nous sommes dignes, on peut s'approcher de Dieu avec confiance. Dieu est un Dieu à craindre, mais dont on peut s'approcher avec confiance, grâce à Jésus. Donc on voit que le peuple a besoin d'un médiateur pour s'approcher de Dieu. Mais la deuxième chose qu'on voit dans ce passage, un peu plus courtement, c'est le deuxième point ce matin, c'est le besoin d'obéir. Si le peuple a besoin d'un médiateur pour s'approcher de Dieu, le peuple a aussi besoin d'obéir face à ce Dieu-là. Parce que oui, le peuple est conscient du privilège d'entendre Dieu leur parler, mais maintenant la question c'est, quelle sera la réaction du peuple à cette parole ? à cette révélation de Dieu? Comment est-ce que le peuple aurait dû réagir face à ce que Dieu a révélé? Et remettons-nous dans le contexte pour bien comprendre ça. Dieu a délivré son peuple d'un esclavage terrible en Égypte, d'une situation désespérée, et Dieu est maintenant en train de conduire son peuple pour l'amener dans un bon pays dans lequel habiter. Ce Dieu-là, ce Dieu de l'univers, il s'est révélé à ce peuple, et il leur a transmis ce qu'il attendait d'eux. Il leur a transmis la manière appropriée de vivre dans le pays. Il a donné les 10 commandements dans ce cadre impressionnant, comme on a vu, avec le feu, avec la nuée, avec les ténèbres. Il a écrit lui-même ses commandements sur 2 tables de pierre. Il a donné ça à toute l'assemblée. Comment est-ce que le peuple aurait dû réagir face à ça? Ah, c'est sympa, Dieu, merci, mais on va y réfléchir. Hein. On reviendra vers toi plus tard. Non, ça aurait été insensé de raisonner comme ça. Si ce Dieu-là parle, si ce Dieu-là se révèle, alors la seule réaction appropriée, c'est d'obéir à sa parole. La seule réaction appropriée pour le peuple face à cette révélation de Dieu, c'était tout simplement d'obéir. Et c'est ce qu'on voit dans ces versets. Dieu s'attend à ce que le peuple obéisse. Regardez le verset 31. Dieu dit « Quant à toi, reste ici avec moi, en parlant à Moïse, et je te dirai tous les commandements, les prescriptions et les règles que tu devras leur enseigner, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous veillerez à vous conformer à ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné de faire. Vous ne vous en écarterez ni à droite, ni à gauche. » Le peuple devait obéir. Parce qu'il s'agit de 10 commandements et pas de 10 conseils pour vivre une vie plus épanouie. Non, il s'agit de commandements. Dieu révèle ce que sa sainteté demande de la part du peuple, ses exigences morales. Et ce ne sont pas les lois d'un despote tyrannique, mais ce sont les lois d'un Dieu bon qui a délivré son peuple et qui veut qu'il vive de la bonne manière dans le pays qu'il leur donne. L'obéissance est la seule réaction appropriée vis-à-vis de Dieu. Dans le monde dans lequel on vit, on l'a dit un peu, mais Dieu est vu comme un fruit de l'imagination humaine, un concept que les êtres humains ont créé, une béquille pour aider les plus faibles à se donner de l'espoir. Et du coup, on parle de Dieu un peu comme on veut, on traite Dieu un peu comme on veut. On pioche à gauche et à droite différents concepts et différentes idées pour se représenter Dieu tel qu'on voudrait qu'il soit. La religion est réduite à un choix parmi une liste de spiritualité, un peu comme on choisit un plat au restaurant. Non, ça c'est trop épicé, ou ça, pas assez de saveur, je veux pas. Et on fait un peu sa sauce comme ça. Mais le Dieu de la Bible, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un choix parmi d'autres possibilités. C'est une personne qui s'est révélée et à qui on doit se soumettre. C'est une personne qui s'est révélée et à qui on doit obéir. C'est la seule réaction appropriée. C'est une personne qui s'est révélée et on doit l'accepter tel qu'il s'est révélé à nous. L'obéissance est la seule bonne réaction face à Dieu. Pas une obéissance froide, illogique, mais l'obéissance de cœur à un Dieu qui est bon. Pardon. L'obéissance est la seule bonne réaction vis-à-vis de Dieu. Et on peut d'ailleurs souligner à nouveau le privilège que c'est pour nous, êtres humains, que ce Dieu nous parle. On a déjà vu ça. Mais c'est un privilège que ce Dieu-là parle à des êtres humains. Et est-ce qu'on est conscient, nous, de ce privilège aujourd'hui? Alors Dieu, oui, ne parle plus à grande voix dans une montagne en feu, mais il a parlé de manière complète et définitive dans la Bible, sa parole. On se dit peut-être, ah mais c'est moins impressionnant ça. Et on peut avoir tendance à négliger cette parole ou à pas réaliser le privilège que c'est. C'est vrai que peut-être le moyen est moins impressionnant, mais c'est le même Dieu qui parle, un Dieu glorieux et majestueux, qui se révèle à nous, êtres humains. Alors quand le matin, avant d'aller au travail, vous ouvrez la Bible, ou quand le soir en famille, vous ouvrez la Bible, ou quand dans le métro, vous lisez quelques versets sur votre smartphone, vous n'êtes pas simplement en train de lire un livre parmi les autres. Vous n'êtes pas simplement en train d'ouvrir un livre qui parle de Dieu. Vous n'êtes pas simplement en train d'ouvrir un livre qui parle de religion. Vous n'êtes pas en train de lire un livre que les chrétiens doivent lire simplement par devoir, par obligation. Mais vous êtes en train d'écouter Dieu lui-même vous parler, ce Dieu majestueux et glorieux. Vous êtes en train de contempler le Dieu glorieux qui se révèle à travers des mots humains. Voilà une bonne motivation à chérir la parole de Dieu, n'est-ce pas? À avoir soif, à avoir envie, à avoir hâte d'être le dimanche pour écouter la parole de Dieu. À avoir hâte de se lever le matin pour ouvrir la Bible et découvrir ce que Dieu veut nous dire. À avoir hâte de voir nos frères et sœurs dans l'église pour s'encourager, pour partager un passage qui nous a marqué dans la semaine. Réalisons le privilège d'entendre la voix de Dieu. Et réalisons la réaction appropriée face à cette parole, l'obéissance. Mais on voit que le peuple devait aussi obéir parce que des promesses étaient attachées à ces commandements. On voit ça avec le verset 29, vous pouvez regarder avec moi le verset 29 et le verset 33 aussi, on va regarder. Au verset 29, il est écrit « Si seulement, donc Dieu qui parle, si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. » Au verset 33, Dieu dit « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. » En fait, c'est la manière dont fonctionnait cette alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël, ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Je lutte un peu avec la toux. Merci. Mais donc on voit que c'est la manière dont fonctionnait cette ancienne alliance, l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël. Dieu avait délivré son peuple d'esclavage et il lui donnait un bon pays dans lequel habiter. Et Dieu donnait à ce peuple des lois à respecter pour vivre d'une manière appropriée dans ce pays. Et si le peuple obéissait, si le peuple respectait ses lois, alors il allait vivre heureux pour toujours dans ce pays. Il allait être béni par Dieu. Mais si le peuple désobéissait, si le peuple rejetait Dieu et allait adorer des idoles, alors le peuple allait être puni, il allait être jugé, il allait être chassé du pays par les autres nations. C'est la manière dont fonctionnait cette ancienne alliance. L'obéissance donnait lieu à la bénédiction et la désobéissance donnait lieu à la malédiction. Et malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. Le peuple ne va pas toujours obéir. En fait, dans ce passage même, on voit ça. Dieu dit au verset 29, « Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements. » Dieu sait très bien que le peuple va désobéir, que le peuple va se détourner de lui, que le peuple n'aura pas toujours cette même disposition de cœur. Et c'est ce qu'on voit en continuant la suite de la révélation de la Bible, en lisant le livre des Josué, des juges, et même après, le peuple se détourne de Dieu. Le peuple se met à adorer des idoles et à faire précisément ce que Dieu avait interdit. Et donc, au lieu d'être béni comme il aurait dû l'être, le peuple n'est pas béni. Il ne peut pas vivre heureux dans le pays que Dieu lui donne, mais il est plutôt envahi par des nations étrangères et emmené en exil. Et on voit cette désobéissance se répéter tout au long de l'Ancien Testament. Une désobéissance qui amène le jugement juste de la part de Dieu. Et comme on l'a dit, les médiateurs humains, les prophètes, ne peuvent rien faire pour changer ça. Ils ont beau transmettre la parole de Dieu au peuple, le peuple continue de désobéir. Parce que le problème ne se trouve pas dans les actes extérieurs, mais le problème se trouve dans le cœur de ce peuple. C'est la disposition du cœur qui compte. Et ni Moïse, ni aucun autre prophète de l'Ancien Testament, ni aucun médiateur humain ne peut changer le cœur du peuple. Et c'est pour ça qu'en lisant l'Ancien Testament, en lisant le livre de Deutéronome, on soupire après quelque chose de plus. On voit ce que Dieu demande au peuple, on voit les bénédictions et les malédictions qui sont prévues en fonction de l'obéissance ou la désobéissance du peuple. Et on sait très bien que le peuple ne va pas obéir. On sait très bien que le peuple ne sera pas capable d'obéir. Et donc on voit combien cette ancienne alliance ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Il faut une autre alliance. Et là encore, on semble être laissé sans solution jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Et c'est ce qu'on a vu dans la série de prédications dans la lettre aux Hébreux, n'est-ce pas? Que Jésus amène une alliance qui est plus excellente, qui est bien meilleure. Dieu fait une alliance avec son peuple, avec tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Et cette alliance, elle n'est pas basée sur notre obéissance, sur le bien qu'on fait, sur nos mérites. Ce n'est pas notre obéissance qui assure la bénédiction, sinon ce serait mal barré pour nous. Mais c'est l'obéissance de Jésus qui assure notre bénédiction. Jésus a vécu une vie parfaite sans aucun péché et en respectant toujours les exigences morales de Dieu. Il a obéi à notre place. Il a vécu la vie parfaite qu'on n'a pas réussi à vivre. Et sur la croix, il a pris sur lui la malédiction qu'on mérite en fonction de notre désobéissance. Et donc la structure de cette alliance a changé. C'est une alliance qui est basée sur la grâce, sur le don gratuit de la part de Dieu, pour nous donner ce qu'on n'aurait jamais réussi à avoir par nous-mêmes. Et cette nouvelle alliance, elle nous donne le changement de cœur dont on a besoin. Un cœur nouveau qui peut et qui veut désormais obéir à Dieu. Pas pour gagner la bénédiction, parce qu'on l'a déjà par la foi en Jésus, mais en conséquence de cette bénédiction, de ce salut qu'on a reçu gratuitement de la part de Dieu. Et donc si on est chrétien aujourd'hui, si on a placé notre confiance en Jésus, on n'est plus sous ce régime de l'ancienne alliance. Sous cette structure de l'obéissance qui produit la bénédiction et la désobéissance qui produit la malédiction. Et donc là, peut-être certains pourraient se dire, mais Alors est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'obéir à Dieu? Et c'est une objection que mes amis musulmans me disent souvent, mais si tu dis que tu es sauvé par la grâce, alors tu peux vivre n'importe comment, Dieu va te pardonner. Mais c'est pas comme ça que cette nouvelle alliance fonctionne. Cette grâce que Dieu nous donne ne pousse pas à faire n'importe quoi. Parce que ce Dieu en qui on croit, c'est le même Dieu que celui qu'on voit dans ces versets. Un Dieu face à qui la seule réaction appropriée, c'est l'obéissance. Le caractère de ce Dieu-là n'a pas changé. Ses exigences morales, la perfection qu'il doit demander, n'a pas changé. Donc en tant que chrétien, on veut obéir à Dieu. On veut lui obéir, mais plus pour les mêmes raisons. On n'obéit pas pour gagner la bénédiction de la part de Dieu, mais plutôt en conséquence de ce qu'il nous a déjà donné en Christ. Mais on obéit quand même. Et peut-être il y a le danger en tant que chrétien évangélique hein, d'avoir un peu de facilité de dire « Ah mais on n'est plus sous l'ancienne alliance, la loi c'est fini ». Mais on n'est pas sans loi dans ce monde. On veut vivre selon la loi de Christ, notre chef, suivre ses exigences, c'est difficile à dire ce mot, suivre ses exigences morales et vivre dans ce monde comme il veut qu'on vive. Cette loi, ce n'est pas un fardeau pesant qu'on porte sur les épaules, mais c'est plutôt une obéissance de cœur qui est motivée par la reconnaissance qu'on doit à notre Sauveur. Voilà le besoin d'obéir à ce Dieu qui s'est révélé. J'aimerais juste terminer en parlant de Martin Luther. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Martin Luther. Ce n'est pas Martin Luther King, c'est le Martin Luther du XVIe siècle, de la réforme protestante. Cette semaine, on a fêté les 502 ans de la réforme protestante. Et ça illustre bien cette notion de la crainte de Dieu, d'une crainte appropriée de Dieu, et de la confiance qu'on peut avoir pour s'approcher de lui. Martin Luther, il est né en 1483 dans une famille catholique traditionnelle de l'époque, et il était très conscient de qui était Dieu. Il était conscient que Dieu était un Dieu saint, un Dieu majestueux, un Dieu glorieux, et qu'on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Et Martin Luther, il était aussi conscient dès son plus jeune âge de son propre péché, de sa propre indignité devant ce Dieu-là. Il était conscient qu'il ne pouvait pas tenir. Et il craignait pour son âme. Il cherchait la sécurité désespérément. Il vivait vraiment dans la terreur de comment est-ce que moi je peux m'approcher de ce Dieu-là. Et il cherchait la sécurité auprès de toutes sortes de choses, auprès des saints, selon ce que l'Église catholique enseignait. Et on raconte un épisode qu'un jour il traverse un orage assez terrible, assez dangereux. Et il a cru qu'il allait mourir et il aurait crié « Aide-moi Sainte-Anne et je me ferai moine ». Voilà, il cherchait du réconfort, il cherchait de la sécurité. Et suite à ça, il a échappé à la mort et donc il se serait engagé en tant que moine. Et dans ce monastère, il cherchait aussi la sécurité en pensant qu'une vie morale plus stricte allait l'aider. Il devient moine et il est toujours plus conscient de la majesté de Dieu et de son indignité devant lui. Et il vit comme ça et il ne trouve pas de solution. Et voilà ce qu'il écrit en parlant de cette époque. « Bien que je vivais comme un moine sans reproche, je ressentais que j'étais un pécheur devant Dieu, avec une conscience extrêmement troublée. Je n'arrivais pas à croire qu'il était apaisé par ma satisfaction. Mon cœur tremblait et frissonnait en se demandant si Dieu allait m'accorder sa grâce. » Et puis il a dû enseigner la Bible, il a dû donner des cours à propos de la Bible, et il s'est mis à étudier la lettre aux Romains. Et en étudiant ce que la Bible révélait, en étudiant cela, il a découvert l'évangile de grâce. Il a découvert le don gratuit que Dieu nous donnait, une justice qu'on n'a pas, pas basée sur nos mérites, pas basée sur notre obéissance, mais basée sur ce que Jésus avait fait pour nous. Il a découvert que Jésus était un médiateur suffisant, parfait, pour donner accès à Dieu. Et cette découverte-là a complètement transformé sa vie. Il écrit ceci, après avoir fait cette découverte, il écrit « Je me sentis un homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes, dans le paradis même. À l'instant même, l'Écriture m'apparut sous un autre visage. » Luther avait trouvé la sécurité dont son âme avait besoin. Il avait trouvé cette sécurité en Jésus seulement. Et ça ne l'a pas amené à avoir une vision légère de Dieu. Au contraire, il a continué à craindre Dieu d'une manière appropriée, à réaliser que c'est un Dieu majestueux qu'on ne peut pas prendre à la légère, mais tout en étant conscient que c'est un Dieu dont on peut s'approcher avec confiance. Un Dieu qui a envoyé son propre Fils pour nous sauver et pour qu'on puisse, vous et moi, vivre aujourd'hui une relation privilégiée avec lui. Prions ensemble pour terminer. Notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté envers nous, que même si tu es ce Dieu glorieux, majestueux, tu es un Dieu qui a envoyé ton propre Fils sur cette terre pour nous sauver. Et on veut te remercier pour ce que Jésus a fait sur la croix, sur le jugement qu'il a pris à notre place, du fait que, par la foi en lui, on peut maintenant s'approcher de toi avec confiance, avec assurance. Aide-nous à être conscients de cela jour après jour dans notre vie pour vivre d'une manière qui te glorifie et qui t'honore. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen.